Aujourd'hui, il brasse des milliards de dollars et que c'est une affaire de gros sous. Quelle est un peu la part de l'Afrique?
Vous avez raison, M. Dia. D'abord, bonjour à vos téléspectateurs. Je suis très heureux de me retrouver avec vous et avec mon ami Kassé, qui est une des mémoires du sport au Sénégal, du football en particulier. Je voulais dire que votre question, elle ne va pas être facile. Parce que tout simplement, il va être difficile, et pour plusieurs raisons et plusieurs facteurs, d'évaluer la part du sport dans l'économie africaine. C'est pas tellement évident. Tout à l'heure, vous avez dit que ça représentait environ
0,5 selon
5. En fait, l'économie du sport représentait, vous avez dit, je crois, 5% du PIB, 2% du PIB mondial dans l'économie mondiale, et que le sport ne représentait que 0,5%. Ces calculs, on a pu les faire peut-être dans des économies et dans des pays où il y a la possibilité d'évaluer. Chez nous, on a d'énormes difficultés. Kassé le sait très bien. D'abord, pourquoi c'est difficile d'évaluer le sport, la part du sport dans l'économie africaine? Le marché, sa taille, c'est quoi? La valeur de ce marché-là, qu'est-ce que ça brasse comme argent? On ne sait pas. Moi, je suis chercheur. Je suis dans un centre de recherche économique. On a d'énormes difficultés à évaluer la taille du marché. Deuxièmement, les acteurs. C'est qui? Nous, les acteurs que nous connaissons, c'est ceux qui sont sur le terrain. Mais il y a d'autres acteurs et qui sont peut-être 10 000 fois plus importants, en tout cas du point de vue économique, que ceux qui sont en train de faire des compétitions dans le sport. On les connaît. Ils ont l'image, ils ont tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour dire que c'est difficile, la pratique et les goûts des consommateurs. Dans les économies développées, on les connaît un peu. C'est les maillots, c'est une manière de faire, c'est le merchandising, c'est tous les produits dérivés. Ici, c'est très difficile. Et l'équipe nationale de football.
Il y a un énorme manque à gagner.
Énorme. C'est un fossé. La fédération de football du Sénégal a tenté en se disant, écoutez, moi je vais jouer sur le merchandising de mon équipe, qui est devenue une équipe presque un label aujourd'hui, donc je vais m'organiser pour que les maillots ne puissent pas tomber entre les mains de n'importe qui et que l'on puisse vendre. Qu'est-ce qui s'est passé? La population s'est soulevée en disant, c'est notre équipe, nous on a besoin de maillots à 10 000 francs. Eux, ils voulaient vendre. C'était un peu compliqué. Donc ça, c'est la question des consommateurs. Ensuite, si je reviens sur les acteurs, il y a les entreprises du secteur commercial et les entreprises du secteur sportif. Si je prends les entreprises du secteur sportif, c'est souvent ceux qui ont pour objet principal de faire une sorte de mobilité, de transfert de sportifs.
D'accord.
Voilà, ça, c'est un problème. Combien rapportent ces transferts et cette mobilité de sportifs dans nos différentes économies? On ne peut pas calculer ça. On sait que peut-être il y a un président de club qui va s'en sortir. Il y a peut-être des familles qui vont s'en sortir. Sadio Mané fait beaucoup de choses aujourd'hui pour sa localité. Mais dans l'économie sénégalaise, combien ça pèse? On ne sait pas trop. Donc c'est des réussites économiques individuelles plus qu'autre chose. C'est pour ça que je vous dis, M. Dia, c'est un peu difficile d'évaluer. Malgré tout, on peut de manière empirique dire il y a tel, les infrastructures, il y a ceci. C'est un peu ce que je peux dire pour répondre à votre question en m'excusant auprès de vos auditeurs.
Vous avez très bien répondu.
De ne pas pouvoir vraiment répondre de manière exacte en tant que chercheur.
Absolument.
Voilà, merci.
Alors, Mamadou, vous êtes ancien athlète hein, et même si vous travaillez aujourd'hui un peu plus sur les questions sociales et de développement, pourquoi pensez-vous que le sport est transversal et touche un peu notre quotidien?
Voilà, merci bien, Michel Dia. Je pense que c'est l'occasion pour moi aussi de me mettre face à celui qui est considéré comme l'éminence grise du sport sénégalais et africain.
Merci pour ça.
En la personne du professeur Saho, qui a un master qui est couru au niveau de l'université. Merci. Parce que simplement, nous considérons que le sport est une donnée à la fois économique et sociale.
Absolument.
Dans ce pays et en Afrique de façon générale. Et effectivement, comme il l'a dit, l'Afrique est en train de sortir de l'amateurisme. Je pense que quand on parle d'amateurisme, on parle justement de la façon dont le sport est géré. Et je dois dire que l'expérience, en tout cas ma petite expérience du sport sénégalais, m'a permis de savoir que la première initiative en termes de valorisation du sport, de valorisation économique et sociale du sport et sportive du sport, provenait du défunt Lamine Diack, notre regretté Lamine Diack, qui avait mis en place une réforme, qu'on appelle d'ailleurs jusqu'à présent la réforme Lamine Diack en 1969. Et depuis lors, le sport a surfé sous le régime de cette réforme-là. Naturellement, avec des déclinaisons. qui ont engendré la création de nouvelles écoles de football, écoles de sport. Mais de façon générale, on peut considérer que le sport en Afrique est en train de sortir de l'amateurisme timidement. Et de ce point de vue,
c'est un peu le mot aussi.
Très timidement d'ailleurs, parce que bon, on s'est rendu compte qu'en réalité, on n'a pas suffisamment pris en charge, pris en compte tous les paramètres qui concourent justement à la promotion du sport en Afrique.
D'accord. Alors, le professeur Sarro, les cinq plus grands championnats européens, ce qu'on appelle les Big Five, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou la France, génèrent des chiffres d'affaires de plusieurs milliards de dollars hein, par an, même s'il n'est pas réaliste d'espérer un peu de tels chiffres en Afrique à l'heure actuelle. Pourquoi les championnats africains ont du mal à générer des revenus?
Il y a les chiffres que vous avez donnés sont déjà une réponse. Parce que quand les grands championnats génèrent autant, ça veut dire que ce sont des championnats qui sont attractifs. Et quand vous êtes attractif, tout ce qui est investissement a tendance à aller chez vous. Nous ne sommes pas malheureusement attractifs. Et c'est ça notre problème aujourd'hui.
Donc voilà le Nebetan, le championnat de quartier.
Tout à fait.
Ça traîne du monde.
Non, on est attractif au plan sportif, au plan de la compétition sportive. Mais au plan de la compétition économique, on n'est pas attractif. Et or, aujourd'hui, comme il vient de le dire, le sport, nous sommes en train de sortir timidement. Nous sortons timidement parce que nous sommes en train de comprendre de plus en plus en Afrique que le sport, ce n'est pas seulement un résultat sportif. C'est aussi un résultat économique. Je vois, je donne souvent l'exemple parce que les jeunes Sénégalais et les Sénégalais globalement suivent le championnat anglais. Il y a un club qui depuis je ne sais pas combien de dizaines n'a pas gagné le championnat en Angleterre. Mais c'est l'un des clubs au plan économique les mieux tenus. C'est Arsenal. Cette année peut-être qu'ils vont gagner parce qu'ils sont bien partis là. Mais Arsenal aujourd'hui a une gestion économique extraordinaire. Et donc c'est ça qu'on demande aux Africains. Ne vous contentez pas seulement des résultats sportifs. On est fiers quand on gagne. On était très fiers en 2002 quand on a gagné la France, on a fait la fête et tout ça. Bon, on est fiers quand on voit une équipe africaine gagner en Coupe du Monde. Mais c'est pas que cela. Il faudrait qu'il y ait, comme vous dites, des retombées dans nos économies. Et ça, ça
et va pourtant, pas. Quand même, l'Afrique est pourvoyeur de talents dans ces championnats qui sont les Big Five, comme on dit. Quel est le problème? Pourquoi l'Afrique n'en profite pas?
Parce que les éléments de rémunération qu'il y a dans ces compétitions. Nous ne les avons pas. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Vous avez dû suivre quand ils ont dit pour l'équipe de France faire la photo, un footballeur, un jeune, l'un des plus jeunes, Mbappé, a refusé de faire. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il sait que s'il se met dans cette photo, il va gagner tant. Or, s'il surenchérit, il peut gagner un peu plus. C'est juste sur la base de son droit à l'image. Combien de fois, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Sadio Mané, Aladji Diouf, ils ont fait vibrer les spectacles de télévision en Europe. Qu'est-ce que nos pays ont gagné? Leur club va gagner. Liverpool a beaucoup gagné sur Sadio Mané. Mais est-ce que Liverpool a pensé à donner à Sadio Mané personnellement et au club de départ de Sadio Mané quelque chose sur les droits à l'image? La retransmission des droits de télévision, ça compte beaucoup. Et c'est ce qui fait vivre aujourd'hui le football d'ailleurs. La FIFA, pour la Coupe du Monde, les trois quarts de ses revenus proviennent des droits de télévision. Ouais. Ces droits de télévision, quand on le fait dans le championnat de France, on le partage entre les différents clubs, PSG jusqu'au dernier, les Lorient et tout cela. Mais en même temps, il y a des joueurs particulièrement qui touchent des droits à l'image sur ces droits de télévision. Ça veut dire que nous n'avons peut-être pas tout ce qu'il faut pour aller négocier cela. C'est dans la négociation de départ.
Monsieur Kassem, vous voulez dire un mot sur ça?
Oui, disons que, bon, vous savez, le sport, c'est une diversité d'acteurs. Et de plus en plus, on a des acteurs dans tous les secteurs. Dans les secteurs économiques, dans les secteurs sociaux, dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la santé. Vous avez cette pluralité d'acteurs qui fait qu'aujourd'hui, chacun a sa part de, comment dirais-je, du gâteau, si on peut s'exprimer ainsi. Et malheureusement, au niveau de l'Afrique, nous avons un secteur sportif qui est actuellement exclusif, qui n'est pas encore inclusif. Et il faut créer les conditions d'une inclusivité du sport, qui intègre en tout cas tous les acteurs des différents secteurs qui pourraient, par leur participation, par leur contribution, arriver à booster le sport et à créer les conditions d'un développement économique du sport.
D'accord.
Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais on est dans un processus, on s'est engagé, puisque de plus en plus, on est dans la mondialisation. De plus en plus, on regarde les autres. De plus en plus, on essaie de copier ce qui se fait de mieux dans le domaine du sport, qui est quand même un domaine démocratique par excellence, un domaine d'ouverture, un domaine de partage au niveau international.
Alors, j'ai deux minutes avant d'aller aux commentaires Facebook de nos téléspectateurs. Je veux quand même aborder cette question. On entend souvent la polémique quand il y a l'inauguration d'infrastructures sportives à coût de milliards. Certains diront que voilà, ce n'est pas prioritaire dans des pays pauvres. Vous avez un commentaire par rapport à cela?
Oui, bien sûr, mon ami Sao, mieux flatté que moi pour parler de cette question. Mais je dois dire que les infrastructures sont primordiales si on veut promouvoir le sport. Et pour arriver à un développement économique et social, il faut passer par le sport. De plus en plus, les gens ont compris que le sport fait partie intégrante des leviers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour promouvoir le développement économique et social. Pendant très longtemps, on a pensé que les ODD, etc., c'était vraiment les éléments d'appréciation d'une Afrique qui avance. Aujourd'hui, on peut considérer que le sport doit faire partie intégrante des préalables, en tout cas des conditions de développement du sport. Et je pense que, de ce point de vue, les dirigeants africains sont en train de comprendre que les réalisations dans les infrastructures, à travers les stades, à travers même les hôtels, à travers en tout cas un certain nombre d'infrastructures, doivent nous permettre de générer des revenus additionnels qui nous permettraient non seulement d'entretenir le secteur sportif, mais d'entretenir aussi d'autres secteurs qui sont quand même des secteurs de développement.
D'accord. Professeur Sarro, les gouvernements africains doivent-ils investir davantage dans les infrastructures sportives quand tout est prioritaire?
Oui, il a donné la réponse, hein, et je partage entièrement son point de vue. Je crois qu'il y a peut-être quelques difficultés par moment. On peut se dire qu'il y a de l'indécence. On a des abris provisoires et on construit un stade à milliards. Abris provisoires pour l'éducation. Mais je crois que chaque chose avec son champ. Voilà. Chaque chose avec son champ. Dans l'éducation, ils vont continuer peut-être pendant un moment à avoir des abris provisoires, mais peut-être qu'ils feront. Mais ce qui permettra aujourd'hui de capter des ressources qui vont aider à enlever ces abris provisoires, le sport fait partie de ça. Et l'infrastructure sportive, c'est le lieu d'expression du sport. Si c'est mal fait, vous n'allez pas là-bas. La télévision, vous avez besoin d'aller dans des endroits qui sont agréables à montrer. Quand vous avez une mauvaise police, c'est les journalistes et la télé qui sont les premiers à dire c'est pas bon, le spectacle n'est pas joli et vous ne pouvez pas vendre. Et si vous ne vendez pas, il n'y a pas de revenu pour le sport. Donc les infrastructures, c'est important.
D'accord. Alors nous avons quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi est à Abidjan. Il dit que le football est une véritable industrie qui génère beaucoup d'argent. Son impact dans les sociétés, surtout africaines, n'est pas négligeable et cela se vérifie à travers l'explosion des activités commerciales, la construction des infrastructures sportives, routières et hôtelières à l'occasion des grands événements sportifs tels que la CHAN et la CAN pour les pays hôtes. Archiduc Théodore Andiamena, il nous dit que le sport et particulièrement le football peut être un vecteur de développement économique par les revenus qu'il génère, comme les frais publicitaires, les droits de diffusion, les frais de logement et l'investissement des joueurs dans les secteurs économiques. Enfin, Alphonse Mbouaké à Kinshasa écrit, lui revient sur cette citation de Nelson Mandela en disant « Le sport a le pouvoir de changer le monde, il peut créer de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir ». Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Dudièche à Kinshasa.
Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités. Avec moi, le professeur Abdoulaye Sarro, directeur de l'Institut EDGE, fondateur du curriculum droit du sport, chercheur, et travaille également sur les questions liées à l'économie du sport. Et également avec moi, Mamadou Kassé, journaliste, ancien rédacteur en chef du quotidien national Le Soleil, écrivain, et qui a contribué au dernier ouvrage qui s'appelle Sadio Mané, le roi Lyon. Alors, professeur Sarro, comment convaincre cette partie de l'opinion qui est encore réticente de la pertinence de ces investissements, et surtout quand on voit qu'il y a quand même des fois des problèmes de rentabilité, ces stades à coups de milliards, peut-être on les utilise qu'une fois par an.
L'opinion, elle est beaucoup plus dans le résultat sportif. Quand les résultats sportifs arrivent, ils sont prêts à tout. Quand le Sénégal a gagné la CAN, je crois que les dirigeants sportifs pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, ils allaient pardonner. Okay. Donc l'opinion, pour la convaincre, je crois qu'il faut s'organiser pour avoir de temps en temps des résultats sportifs probants qui vont aider. Et à ce moment-là, ça passera. Mais si vous n'avez pas de résultats sportifs et que vous faites des infrastructures, ils vont vous dire, écoutez, nous, on a plus envie de manger que de voir du gazon. Et ça, ce serait normal. Maintenant, il y a, à côté de l'opinion, il y a les investisseurs. Le sport d'aujourd'hui, M. Dia, c'est le fait de ceux qui sont en charge de l'investissement partout dans le monde. Et ceux-là, ce ne sont plus les investisseurs traditionnels, là, comme on faisait à l'époque quand on était dans les années 70 et qu'on appelait les investisseurs dans nos pays, quelqu'un qui vient s'installer ici avec armes et bagages, on lui déroule un code des investissements avec des avantages fiscaux et tout, c'est fini ça. Ceux qui investissent aujourd'hui et qui occupent le sport, ce sont ceux qu'on appelle les fonds d'investissement, les fonds de pension qui s'occupent de la retraite de certaines personnes, les fonds souverains qui appartiennent à des États. Ce sont ces gens-là qui viennent. Et tous les grands clubs aujourd'hui du monde appartiennent à ces fonds-là.
Mais la question de la rentabilité, elle est quand même pertinente.
Mais absolument.
On a vu le débat sur le stade Abdoulaye Wade. C'est vrai qu'il vient d'être inauguré, mais on ne l'utilise pas beaucoup. On a eu cette même polémique lors de la Coupe d'Afrique au Cameroun avec toutes ces infrastructures. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut rentabiliser?
Cassé pour un même témoin. On a dans notre administration sportive la manière dont on a organisé notre administration sportive. C'est une administration pour le service public. C'est l'État qui fait tout. Quand vous allez au ministère sur les infrastructures, vous avez une direction des infrastructures. Or, aujourd'hui, dans les différents pays, ce n'est plus une direction du ministère. C'est un organisme qui est à côté, quelquefois privé, qui gère les infrastructures. Et donc cet organisme, au-delà des matchs de compétition sportive, ils en font tout. Ils peuvent faire des salons de l'agriculture, des matchs, ils peuvent faire plein de choses.
Et donc,
des concerts, ça doit être utilisé. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, on doit changer notre approche administrative au regard du sport. Même la fédération, je le dis régulièrement, les fédérations doivent avoir des directions, j'allais dire, économiques pour pouvoir mettre en valeur tous les produits-là qu'ils ont autour des résultats sportifs. On a un peu mal vendu, à mon avis, pour le Sénégal, l'équipe nationale de football. Ouais. On aurait pu mieux vendre cela et faire beaucoup plus de résultats. Ouais. Parce que la FIFA nous donnera beaucoup. Même si on sort un premier tour, là, on va, je crois, avoir 9 millions de dollars US. Même si vous ne passez pas le deuxième tour, vous avez déjà ça, c'est un petit pactole. Absolument. Alors, si la Fédé avait fait ce qu'il fallait, on aurait gagné plus. Voilà.
Monsieur Kassé, l'organisation de compétitions internationales coûte cher, mais au moins cela permet de bâtir des infrastructures de développement, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a souvent un retour sur investissement, comme on dit?
Oui, disons que s'il y a un domaine où véritablement on peut parler de gestion axée sur les résultats, c'est bien le sport. Aussi bien sur le terrain que dans le secteur, dans le domaine administratif. C'est une gestion axée sur les résultats. Je pense que de plus en plus, les gens comprennent que le sport, c'est des résultats sur le terrain, mais c'est des résultats aussi en dehors du terrain. Donc, toutes les infrastructures qu'on réalise, c'est pour obtenir des résultats. Il reste entendu que de plus en plus également, on est en train d'asseoir ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Et de ce point de vue, je pense que le secteur privé devrait participer justement à l'émergence d'un nouveau type de management du sport. C'est une nouvelle gouvernance du sport, de façon générale. Et en tout cas, un peu partout en Afrique, on sent qu'il y a des frémissements
Mais le championnat sénégalais avec la ligue professionnelle, c'était un peu l'objectif, non?
Parfaitement. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a parlé de professionnel, de professionnaliser le football pour l'amener à générer des ressources. Mais ces ressources ne proviendront pas simplement des spectacles, voilà, mais proviendront aussi d'autres acteurs et d'autres secteurs qui viendraient contribuer justement à la mise en place justement de ces mécanismes qui permettent de générer des ressources et qui vont faciliter l'octroi de crédits extérieurs pour réaliser de nouvelles infrastructures. Parce qu'il reste entendu que les infrastructures qui sont en train d'être réalisées sont des infrastructures de base. Mais on est engagé dans un processus qui doit être dynamique, qui doit nous permettre à terme d'avoir des infrastructures qui permettraient à la communauté internationale de façon générale de penser à l'Afrique. Je pense que de plus en plus, les gens doivent penser qu'on peut organiser une Coupe du Monde en Afrique, qu'on peut organiser des Jeux Olympiques en Afrique, qu'on peut organiser de grandes compétitions en Afrique.
Absolument.
Et ça, c'est des situations qui pourraient permettre de générer des ressources additionnelles permettant de développer même d'autres secteurs, comme l'éducation, la santé et même d'autres secteurs qui pourraient quand même permettre à l'Afrique de faire des avancées, en tout cas dans ces domaines-là.
Alors, professeur Sarr, vous voulez réagir par rapport à ça?
Oui, c'est pour conforter ce qu'il est en train de dire. Il y a beaucoup de sources de revenus qui nous échappent. Parce que nous n'avons pas été bien organisés et nous n'avons pas su mettre en valeur ces ressources-là. Je vous donne juste un exemple. Je peux en prendre deux. Un sur le Sénégal. Il y a une grande course automobile mécanique qui s'appelle le Dakar. J'aurais souhaité, et je le demande régulièrement, est-ce que la ville de Dakar a donné son onction et combien la ville de Dakar a obtenu? Parce que le nom Dakar nous appartient. C'est notre capital, ça fait partie de ce qu'on appelle notre propriété intellectuelle, ça fait partie de notre propriété. Ça, c'est un. Le deuxième exemple, il y a quelques années, ça fait peut-être une dizaine d'années, j'avais été saisi, moi, personnellement, par des gens qui avaient vu chez un équipementier sportif les motifs Bogolan.
Bogolan,
c'est vraiment de rien de chez nous.
Oui.
Et ils avaient mis sur des chaussures ces motifs Bogolan, cet équipementier qui est très connu et qui avait intitulé cela « ethnique ». Et ça a marché dans une communauté aux États-Unis, ces chaussures-là. Alors les gens, ils se sont dit, mais ça nous appartient. Pourquoi vous avez pris? Alors l'équipementier leur a dit, oui, moi je veux bien, ça vous appartient, je sais. Mais si je la paye, je paye à qui? Voilà deux choses qui sont des sources de propriété intellectuelle qui nous appartiennent et sur lesquelles on a perdu. Mais je ne fais pas de publicité, la voiture Touareg. Touareg, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Allemagne, Volkswagen? Non, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui nous échappent parce que nous n'avons pas su saisir bien les ressources de la propriété intellectuelle. Il y a l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui a lancé un programme. Et c'est un de nos compatriotes, d'ailleurs, qui était dans les métiers de la musique, là, Aziz Dian, qui est là-bas. Ils sont en train de voir comment faire pour aider l'Afrique à utiliser les ressources de la propriété intellectuelle pour financer le sport. Le sport. Et à ce moment-là, les noms de Sadio Mané, peut-être que le nom sera quelque chose labellisé. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Vous me permettez justement d'enchaîner sur ça. On a vu quelqu'un comme Sadio Mané investir beaucoup dans son terroir d'origine, et vous avez fait allusion à ça. C'est une personne quand même. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire pour que l'argent du football, généré en tout cas par les professionnels africains qui sont bien payés, puisse profiter à l'économie d'une certaine manière?
Sur ce que Sadio Mané a fait, eux, ils ont écrit un livre sur Sadio Mané. Je crois qu'il en parlera mieux que moi. Mais comment faire maintenant pour que tout cela puisse profiter à l'économie? Il y a une organisation à mettre en place. Hein. Il y a vraiment une organisation à mettre en place. Sur la professionnalisation, par exemple, en Europe, quand on professionnalise, on prend une partie des ressources et on donne au football amateur. Mais nous, est-ce qu'on a cette précaution? Moi, je regarde notre football professionnel, c'est plutôt le football amateur qui a tendance à lui donner quelque chose parce que c'est l'équipe nationale qui donne de l'argent à la Fédé et qui le distribue à ceux qui sont supposés être des businessmen. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, mais sur lequel, comme il dit, on est en balbutiement. Je crois que si on réfléchit bien, on trouvera des solutions parce que le Sénégal et l'Afrique d'ailleurs regorgent de compétences et des gens qui réfléchissent peut-être que les pouvoirs publics ne nous écoutent pas beaucoup, parce qu'eux aussi ont leur agenda. Voilà, ils ont leur agenda, ils préféreront surfer sur les victoires, mais peut-être que ça viendra.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup, fin de ce Washington Forum. Merci énormément à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre page Facebook et sur notre site voafrique.com. Un grand merci également à Khalil Gueye et à son équipe pour la réalisation de cette émission enregistrée dans les studios de BNews International à Dakar. À très bientôt. Au revoir.